Vous écoutez France Culture.
Métro Châtelet, tu es à l'ouest.
Bon voyage, messieurs, dames. Merci pour la musique. Excusez-moi pour le dérange. Bon voyage.
Vigipirate. Donc contrôle, police.
France Culture se fait l'écho du forum Le Monde, Le Mans qui s'est tenu au Mans les 15, 16 et 17 novembre dernier sur le thème « Repousser les frontières ».
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau.
Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée.
Aujourd'hui, cinquième émission, aux frontières de l'art, avec François Morel, acteur, chanteur et chroniqueur, Céline Minard, écrivain, et Fatma Chérif, cinéaste.
On va commencer avec vous, François Morel. En disant qu'on vous a invité à plusieurs reprises à ce forum, qu'à chaque fois vous vous êtes défilé.
Oui. Je ne voulais pas venir, oui.
Il y avait souvent des prétextes, une tournée par-ci, un tournage par-là. Enfin, il ne savait plus quoi inventer, des maux de ventre, des migraines. Enfin, finalement, ça tombe bien que vous ayez refusé les autres forums, parce que vous étiez vraiment l'homme de la situation pour celui-ci, sur les frontières. Pourquoi ? Parce que vous êtes effectivement un homme qui est toujours posté aux frontières des pratiques artistiques, de la chanson, de la comédie, du théâtre, de la mise en scène, de la littérature, de la politique aussi, d'une certaine gauche. Hein. Vous dites souvent que vous êtes un peu aux frontières comme ça de deux gauches, la gauche SNCF et la gauche Georges Brassens.
Ah, c'est vrai.
Je crois, non ?
La gauche Georges Brassens, je ne suis pas sûr.
Non ?
Ça existe. C'est un concept nouveau.
Je croyais que vous l'incarniez, moi.
Que vous venez d'inventer, Jean, je vous félicite.
Bref, un homme frontière qui est très, très, très légitime pour intervenir à ce forum.
D'accord.
Parce qu'il a voulu, au fil des semaines, au fil des mois, dernièrement, se faire passer pour quelqu'un d'illégitime qui n'avait rien à faire dans un forum de philosophie. Et ben, vous voyez, il est extrêmement légitime et même extrêmement nécessaire. J'allais dire, et je voudrais vous confier une petite anecdote, c'est que, vous savez, François Morel a été pendant un an chroniqueur au Monde des Livres l'année dernière. Et moi, au moment où je vous ai proposé de devenir chroniqueur au Monde des Livres, je ne vous connaissais pas tant que ça. Et je dois dire qu'au fil des semaines, j'ai appris à vous connaître. Et puis surtout, je me suis mis de plus en plus à vous écouter à la radio, à être attentif à vos interventions publiques, etc. Et de plus en plus, j'ai été extrêmement fier que vous soyez dans l'équipe du Monde des Livres. Parce que je considère que non seulement vous savez faire rire, mais que vous savez aussi éclairer les consciences et que vous êtes vraiment un homme des Lumières, dans le sens où vous pratiquez une ironie qui nous éclaire. Hein. Voilà. Allez-y, on vous écoute.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Mancel, Manceau, frontalières, frontaliers, je remercie le journal Le Monde de m'avoir fait l'honneur de me demander de partager ma déjà longue expérience et ma culture si grande qu'elle peut me permettre de vous indiquer notamment que selon les indices de la SNCF, le tarif Paris-Le Mans deuxième classe oscille actuellement entre 31,60 € et 47,60 €, suivant un calcul savant qui intègre à la fois votre heure de départ, votre heure d'arrivée, la date à laquelle vous avez pris votre réservation, le nombre de jours entre votre réservation et votre voyage, indexé naturellement sur l'âge au 1er janvier de l'année en cours de la dernière garde-barrière du Grand Ouest, qui coule une retraite paisible dans la région de Conneray. Quand on parle de frontières, il faut bien parler du voyage et des voyageurs. Je voudrais profiter de cette allocution pour ouvrir une parenthèse salutaire et m'adresser aux spécialistes de la sémantique à la SNCF en leur demandant qu'on ne dise plus à l'approche de la capitale sartoise « Vous arrivez en gare de Le Mans », ce qui écorche toutes les oreilles un peu délicates, mais « Vous arrivez au pays de la rillette », ce qui remplira de joie toutes les fines gueules en transit. Oui, je suis heureux de pouvoir prononcer cette communication sur le thème de la frontière dans la ville du Mans. département de la Sarthe, parce que depuis le succès interplanétaire des Deschiens auquel j'ai participé, je ne peux visiter aucun endroit dans le monde, aussi reculé soit-il, aussi désert soit-il, aussi abandonné soit-il, la banlieue de Punta Arenas au Chili, le sommet de Chimborazo dans les Andes équatoriennes, la permanence du Parti Socialiste un jour où Harlem Désir prend la parole, sans que je ne tombe sur une personne en émoi me révélant dans un sourire rempli d'espoir et quémandant d'une façon presque désespérée ma connivence, je suis du Mans. Je suis du Mans comme une œillade, comme une invite, comme un appel au secours. Je suis du Mans comme un soupir, comme une promesse, comme un serment. Eh bien, pas moi, suis-je obligé de répondre du tac au tac et par souci d'honnêteté intellectuelle à mon interlocuteur déçu. Non, pas moi, car moi, je suis du 61 et non du 72. Je suis plus précisément de Flers, qui est situé dans l'Orne. L'Orne qui se trouve à la frontière de la Sarthe, à moins que ce ne soit le contraire. Pour aborder le thème qui nous préoccupe pendant ce colloque, celui de la frontière, je souhaiterais mettre en valeur un mais méconnu, un mais méjugé, parfois décrié à tort, un mais apprécié cependant par un certain nombre de connaisseurs. Je veux parler, et les nombreuses personnes parmi les plus expertes réunies ici ne seront pas surprises que j'y fasse allusion, je veux évoquer, et les grands esprits qui se sont succédés à cette tribune me seront reconnaissants de convoquer son souvenir, je veux parler, mais ne faisons pas durer plus longtemps le suspense, je veux simplement, sincèrement, résolument rendre hommage au gratin de poire à la fourme d'Ambert. Ne pensez pas prématurément que je suis hors sujet en évoquant le gratin de poire à la fourme d'Ambert, car très exactement le gratin de poire à la fourme d'Ambert se trouve à la frontière de la gastronomie française, sur cette lisière qui sépare les entrées des fromages, les fromages des desserts précisément par sa nature sucrée-salée. J'avais d'abord écrit, emporté par la fougue de mes doigts graciles dansant sur mon clavier d'ordinateur, j'avais écrit par erreur à la place de sucré-salé, sacré-sulé, en réminiscence moqueuse sans doute à Harry Sulé, avec qui j'entrais au collège Sainte-Marie de Flers en l'an 1970. Harry Sulé est aujourd'hui chauffagiste et plombier et zingueur. Lui aussi est à la frontière. Je remarque cependant que jamais, à ma connaissance, aucun journaliste aiguisé ne lui a demandé « Mais enfin, Harry Sulé, vous êtes plutôt chauffagiste ou plutôt plombier ou plutôt zingueur ?» L'épouse de Harry Sulé s'appelle Bernadette. Elle est également une touche-à-tout, elle est infirmière à domicile tout en poursuivant une carrière libre d'humoriste. Il est vrai en amateur. Chaque matin, regardant son mari se lever, elle lui déclare « Il est zingueur, Harry s'éveille. » Mais revenons au gratin de poire à la fourme d'Ambert. Comment le définir? Comment l'appréhender sur cette crête invisible qui sépare le doucereux du saumâtre, le suave du relevé? Est-ce un fromage ou une friandise? Martine Dutouquet note sur le site cuisineaz.com « Cette recette assez vite préparée a le mérite d'être original et plaît beaucoup. Au moment de la dégustation, je fais deviner à mes invités quels sont les ingrédients qui la composent et poursuit la perfide Martine Dutouquet. La devinette s'avère difficile. C'est un jeu visuel, olfactif et sympathique. Il crée une ambiance victorieuse et invincible, indépassable et dominatrice, conquérante et impérieuse. La divertissante Martine Dutouquet assène une conclusion imparable et fatale, jamais personne n'a réussi à trouver. L'idée de la frontière a souvent été au cœur des créations artistiques. Lorsque Marcel Duchamp, en 1917, expose un urinoir, il fait reculer les limites de l'art. Quand Pierre Pinoncelli, en 1993, urine dans l'urinoir de Duchamp avant de lui donner un violent coup de marteau, poursuit-il l'œuvre de son maître en faisant encore reculer la frontière de l'art. Pisser dans un urinoir est-il plus provocateur que pisser dans un violon? À propos de musique, quand John Cage écrit 4 minutes 33, il propose une partition sans aucune note, sans le moindre son, le moindre bruit, et s'aperçoit que le vrai silence n'existe pas puisqu'il entend encore le battement de son cœur. 4 minutes et 33 secondes de silence pour dire que le silence est une musique capable d'accueillir l'imprévu et l'aléatoire. Si j'étais l'escroc que certains imaginent, je profiterai de cette conférence qui doit durer plus ou moins 20 minutes pour vous faire écouter l'intégralité de ce morceau de John Cage. Je ne le ferai pas, je ne résiste pas cependant au plaisir de vous en faire écouter un court extrait. Je vous remercie de votre attention. Si l'on m'a invité à parler autour du thème de la frontière, c'est sans doute que l'on considère que mes diverses activités me situent à la lisière, quelque part entre le théâtre et le music hall, entre l'écriture et le jeu, la télévision et la radio, peut-être même entre le rire et les larmes. Comme Harry Sulley évoqué plus haut, je suis polyvalent, mais dans un domaine assez restreint qui touche l'écriture et le théâtre. Quand j'écris des chroniques pour la radio, je tente de ne pas oublier que je suis comédien. Au théâtre, je m'inspire de la radio. J'ai écrit notamment un spectacle à partir de certaines chroniques initialement destinées à la radio. Avec mon ami Olivier Broche, nous avons adapté les dialogues entre deux grands critiques de cinéma, Jean-Louis Borry et Georges Charansol, d'abord improvisés essentiellement dans les années 60 devant les micros de l'émission Le Masque et la Plume. Mes chansons, car il m'arrive de pousser la chansonnette, voire d'en écrire pour diverses interprètes, sont souvent des petites pièces en trois actes. Mes spectacles de théâtre ressemblent à ces anciens récitals où les chansons drôles alternaient avec les chansons tristes. Je suis donc à la frontière qui, je vous fais remarquer, est une ligne imaginaire, autant dire inventée de toutes pièces. Dans la vie, on rit, on pleure, sans qu'à aucun moment on ne cherche à faire entrer dans une catégorie chacune de nos émotions. Un homme trébuche devant vous, sa chute burlesque vous fait rire, vous vous approchez de lui, vous voyez sa souffrance et vous éclatez en sanglots. Comediante, tragediante, tu ris, tu pleures, tu vis, tu meurs, scandait Guy Bedos à la fin d'un de ses spectacles fameux « La vie est une comédie italienne ». Permettez-moi d'ouvrir encore une parenthèse. Guy Bedos, dans une improvisation récente de son dernier spectacle, a traité Nadine Morano de conne et de salope. Je ne peux pas me prononcer sur le fond de l'affaire, notamment sur la qualité de salope de la plaignante que je serais bien en peine d'apprécier. Je ne sais pas si c'est à la frontière, mais peut-être est-ce un peu limite. Je remarque que ce n'est pas la première fois qu'une personnalité essuie une insulte. Je me souviens de Pierre Desproges ouvrir une de ses plaidoiries du tribunal des flagrants délires de la façon suivante. Ou bien Jacques Séguéla est un con et ça m'étonnerait quand même un peu. Ou bien Jacques Séguéla n'est pas un con et ça m'étonnerait quand même beaucoup. Jacques Séguéla aurait été encore un peu plus con s'il avait fait un procès à Desproges. L'insulte, quand elle a de l'esprit, quand elle a du style, devient inattaquable. Mais je ne veux faire la leçon à personne et surtout pas à Guy Bedos. Moi-même, récemment, j'ai pris à partie une enfant anonyme d'une dizaine d'années en la traitant de petite conne. Je suis d'accord avec vous, on ne traite pas une enfant de conne, même si celle-ci, devant le palais de justice d'Angers, assimilait Madame Taubira à une guenon. La colère n'est peut-être pas la meilleure conseillère, mais à un moment donné, elle exprime le dégoût, l'écœurement, quand toute parole sensée, construite, argumentée, semble avoir échoué. Certains crétins ont dû penser que je me mettais du côté du manche en défendant la garde des Sceaux. Pardon, mais je n'ai pas spécialement pensé à elle. J'ai pensé à une autre petite fille de 11 ans, anonyme, elle aussi, originaire d'Afrique, et qui, devant son écran de téléviseur ou d'ordinateur, a dû découvrir, atterrée, apeurée, attristée, que des enfants de son âge, aujourd'hui, sous prétexte qu'elle est noire, l'assimilent à une guenon. Je sais bien que l'époque est au cynisme, qu'il est moderne de ne pas sembler trop humaniste. Tant pis, je préfère être à la frontière de la ringardise et m'exprimer publiquement avec les valeurs qui restent les miennes. Revenons au théâtre. Il y a 2 ans, sous la direction de Catherine Yégel, j'ai joué le rôle de Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme de Molière. C'est une comédie-ballet qui mêle le théâtre et le divertissement, la danse et la musique. Vous auriez dû l'inviter d'ailleurs, ce Molière. J'ai eu beaucoup de plaisir parmi une belle troupe de comédiens, de chanteurs, de danseurs à jouer ce drapier enrichi et capricieux qui rêvait d'être quelqu'un d'autre, qui cherchait avec enthousiasme, naïveté et cruauté vis-à-vis de son entourage à entrer dans le monde des arts et de la connaissance. Après une longue exploitation de ce spectacle en province et à Paris, j'ai reçu d'autres propositions du même type. Je ne les ai pas acceptées, sans doute n'avais-je pas envie d'être définitivement un acteur du répertoire, passant d'un grand rôle à un autre. Monsieur Jourdain était pour moi particulier. La réalisation d'un rêve, un souvenir d'enfance, je reprenais le costume de Louis Seignier. J'avais le souvenir de sa rouerie, de son esprit d'enfance, de sa grande drôlerie. Je n'avais pas cependant l'envie d'enfiler tous les rôles du répertoire, je préférais rester à la frontière. D'autres comédiens peuvent interpréter le répertoire, tandis que je suis le seul à pouvoir affirmer que la fin du monde est pour dimanche. Quand je dis la fin du monde est pour dimanche, je voudrais rassurer les nombreux lecteurs présents ici. Je ne suis pas en train d'annoncer la disparition imminente du grand quotidien du soir. Il s'agit seulement du titre de mon dernier spectacle. Cet opus créé à La Rochelle, joué au Théâtre de la Pépinière, actuellement en tournée, avant une reprise l'an prochain au Théâtre du Rond-Point, pourrait ressembler à un seul en scène composé de sketchs. Mais je ne m'interdis pas de partir dans des histoires qui parfois pourraient s'apparenter à des sortes de nouvelles théâtralisées. La frontière entre le rire et l'émotion est fragile. Il y a quelques années, avec le compositeur Reinhard Wagner, nous nous étions amusés à écrire des chansons. Jean-Michel Ribes, qui les entendit, nous proposa de venir les chanter dans son théâtre. J'étais d'accord à la condition que Jean-Michel nous mette en scène et nous écrive des dialogues. Si le chanteur que j'allais essayer de devenir se révélait trop insuffisant, le comédien que j'étais tenterait de sauver la soirée. Le spectacle s'intitula Collection particulière. Il était à la frontière de la comédie et du musical. Quelques années plus tard, avec la chanteuse Juliette, pour un spectacle intitulé Le soir des lions, encore une fois, nous nous sommes donné rendez-vous pile à la frontière. Elle vient de la chanson, je viens du théâtre. Elle a profité de ma présence pour mettre en scène un spectacle chanté qui lorgnait vers le théâtre. Les musiciens, Antoine Salaire, Muriel Gastebois, Lisa Cadbero, revêtaient des costumes de théâtre et jouaient la comédie en plus de jouer de leurs instruments. Juliette, pour une des chansons, a même réussi à me faire enfiler une petite robe noire, certes saillante, mais que je ne mets dans la vie qu'avec la plus grande parcimonie. En tant que spectateur, les spectacles qui m'ont le plus bouleversé sont sans doute ceux qui se situaient à la frontière. Le souvenir de Zouk, magistral, drôlissime et pourtant ne cessant de parler de la mort, de la maladie, du mal de vivre. Les petits pas de Jérôme Deschamps, raconter une veillée avec des anciens artistes qui, une dernière fois, présentaient un spectacle. Était-ce plus bouleversant que drôle, plus drôle que bouleversant ? J'ai le souvenir d'une vitalité, d'une énergie et d'une mélancolie extraordinaire dans La Cerisée de Tchekhov, mise en scène par Peter Brook. Heureusement que les frontières sont poreuses. Heureusement que les artistes peuvent franchir librement les frontières avec une double nationalité qui leur permet de voyager à la frontière mouvante, instable, sans cesse changeante entre le pays de la comédie et celui de la tragédie. J'ai un goût pour ceux qui, dans les métiers artistiques, n'ont pas cessé de franchir les frontières. Francis Blanche était comédien, humoriste, animait des émissions de radio, écrivait des dialogues, des films, des chansons pour Édith Piaf, des poèmes. Jean-Yann écrivait des chansons, réécoutait la gamberge, réalisait des films, animait des émissions à la radio. Et lorsqu'il était simplement acteur, parfois dans des films mineurs, il avait une puissance de jeu shakespearienne. Je ne parle pas de Boris Vian, écrivain, poète, chanteur, auteur de chansons, critique musicale, ingénieur de l'école centrale, traducteur, trompinettiste, et j'en oublie peut-être, le plus grand touche-à-tout du XXe siècle, qui pendant sa courte vie ne cessait de franchir les frontières avec une aisance, une inspiration ravageuse. Aucun de ceux-là n'a prétendu obtenir le tampon de l'artiste officiel, mais a cherché la surprise, l'étonnement, avec un désir profond de ne jamais s'ennuyer, de ne jamais ennuyer l'auditeur, le spectateur, le lecteur. Je pense également à un artiste un peu oublié, André Frédéric, écrivain, poète, journaliste, pharmacien, sûrement un de ces pharmaciens dessinés par Chaval et fuyant l'orage. Frédéric écrivait les dialogues pour les Branquignoles de Robert Derry, des chansons, mais peut-être est-ce son rapport au monde qui le situe à la frontière, celle du rire et du désespoir, celle de la blague et du chagrin. Un jour de mai 1957, à l'adresse de son immeuble parisien, un fleuriste sonne. La concierge ouvre. « Vous venez apporter des fleurs, c'est pour quel locataire ? Le fleuriste, qui par chance a une tête d'enterrement, répond « c'est pour le décès de Monsieur Frédéric ». La concierge tombe des nues. « Monsieur Frédéric n'est pas mort », s'insurge-t-elle. « Je l'ai encore vu, pas plus tard qu'hier soir ». Le fleuriste repart. Un quart d'heure plus tard, un autre fleuriste survient. La concierge le renvoie de la même manière. Au bout de plusieurs bouquets de fleurs, de plusieurs fleuristes, la concierge est quand même montée chez Monsieur Frédéric voir de quoi il retournait. André Frédéric s'était donné la mort en avalant des médicaments. C'était bien un pharmacien fuyant l'orage. Il avait prévu de se faire envoyer des fleurs le matin de son décès comme un dernier gag funèbre. On est à la frontière de l'humour noir, de la plaisanterie macabre. Quelques jours avant, André Frédéric travaillait encore à Paris Match. Sur un mur du grand hebdomadaire, une affiche demandait à chaque collaborateur de bien vouloir mettre son nom afin de préciser la période de vacances souhaitée et assurer ainsi la permanence du journal. Frédéric avait tracé une ligne qui traversait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et continuait jusqu'au bout du couloir avec l'inscription « Vacances d'André Frédéric ». Les journalistes de Paris Match rigolèrent avant d'apprendre l'épisode des fleurs. Peut-être me suis-je un peu éloigné du sujet qui nous intéresse, mais le métier de conférencier reste assez inédit pour moi. Être à la frontière du sujet quand le sujet est la frontière n'est pas forcément si contradictoire. Et puis, à quoi sert une frontière sinon être franchie ? Quelle est la vocation d'une frontière sinon de reculer toujours ? Lorsqu'on franchit la frontière, c'est pour aller voir là-bas si on y est. Lorsque l'on a pour métier ou pour vocation de s'exprimer, on a tendance à tourner toujours un peu autour des mêmes thèmes. Changer de support permet sans doute de se renouveler. C'est une solution pour tenter de ne pas ressasser, de ne pas remâcher éternellement les mêmes obsessions. Je voudrais faire observer à ceux qui me présentent comme un touche-à-tout qu'il existe encore beaucoup d'activités que je n'ai pas abordées. Le point de croix, le patinage artistique, la natation synchronisée, le lancer de nain, le braquage à main armée. En réalité, il n'y a pas plus de mérite à être polyvalent que monovalent. Chacun fait comme il peut. Chaque artiste a la possibilité d'inventer son métier, de passer d'une activité à une autre, si c'est son désir, son tempérament. Mais il n'y a heureusement aucune obligation. L'important n'est-il pas d'être fidèle à soi-même ? Charles Trenet, fidèle et resté fidèle essentiellement à la chanson, inventant la mer, l'âme des poètes, Papa Pic et Maman Cou, avec la régularité, l'évidence du pommier qui donne des pommes. Brassens, toute sa vie, a été auteur de chansons, contrairement à Brel, qui a fait acteur, cinéaste avant de devenir navigateur. De Vos n'a jamais cessé, pendant sa vie artistique, de nous faire traverser la frontière de l'imaginaire. Le clown Grock a passé sa vie à présenter le même numéro qu'il n'a cessé de peaufiner, d'améliorer. Son numéro de cirque aurait été la grande œuvre de sa vie et personne n'aurait l'idée de le lui reprocher. Quelques citations en art, point de frontière, Victor Hugo. Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imagination est sans frontières, Jean-Jacques Rousseau. Ce sont ces limbes, cette frontière entre le monde du tangible et de l'intangible qui sont vraiment le royaume de l'artiste Federico Fellini. Je reprendrai bien un peu de gratin de poire à la fourme d'Ambert, François Morel. Chaque fois que je photographie une femme, j'ai l'impression de faire reculer les frontières de la mort, Lucien Clergue. Chaque fois que j'invente une histoire, chaque fois que je joue sur scène, chaque fois que je chante une chanson, chaque fois que je tente de chroniquer le monde, j'ai l'impression d'être plus vivant et par conséquent, oui, de faire reculer les frontières de l'ennui, du renoncement, de la tristesse, de la mort. Mais je ne voudrais pas plomber l'ambiance par cette évocation morbide. Si je monte sur scène, si je quitte souvent le fauteuil du spectateur pour monter sur scène, c'est parce que j'ai pris le temps de préparer un moment que j'espère de partage, de consolation, d'humour et peut-être même d'humanité. Alors, je voudrais encore évoquer une frontière essentielle, celle qui sépare le comédien du spectateur. Elle est le quatrième mur, celui qui permet au public de théâtre de voir une action censée se dérouler indépendamment de lui. Mais même lorsque le comédien s'adresse directement au spectateur, demeure une frontière qui interdit une relation normale, équilibrée, celle qui pourra avoir lieu après le spectacle si l'un et l'autre se rencontrent par hasard dans le restaurant proche du théâtre. Même pour moi, cette frontière existe. Je dis « même pour moi » car je suis un acteur de proximité, comme il existe des commerces de proximité. Je ne fais pas partie des inaccessibles, des inabordables, de ces étoiles qui brillent là-haut, si loin dans le ciel, là-bas où se bousculent les faits, les songes, les fantasmes. Moi, je suis un acteur que l'on imagine avec des problèmes de caries dentaires, de cholestérol et de voitures ayant des défaillances au niveau du joint de culasse qui déconne alors que je te signale la sœur du garage il n'y a même pas 15 jours. Malgré cela, il reste rare que des spectateurs osent m'interpeller de la salle lorsque je suis sur scène. Il existe donc une frontière. Cette frontière me paraît belle, indispensable, nécessaire. Elle est ce qui permet au théâtre d'exister, de créer l'illusion. Elle n'est pas basée sur la hiérarchie. Le spectateur d'aujourd'hui, demain, peut être acteur. Il suffit qu'il prenne le temps de répéter des gestes, des attitudes, des paroles qui toucheront l'acteur d'aujourd'hui, qui demain pourra rejoindre le fauteuil du spectateur et dans la pénombre de la salle de théâtre sera prêt pour des aventures émotionnelles et intérieures. La frontière entre le spectateur et l'acteur est née du respect de l'autre, de l'écoute, de la reconnaissance du travail de l'artisan. Elle est ce qui m'aura permis de m'adresser à vous sans qu'à aucun moment vous n'ayez eu envie de m'interrompre pour exposer vos propres réflexions, cependant aussi autorisées que les miennes, et je vous en remercie.
On va maintenant donner la parole à Céline Minard, que je remercie d'être là parce qu'elle est très occupée. Elle a publié un livre à la rentrée, un roman à la rentrée qui a beaucoup de, non seulement de succès, mais de rayonnement. À l'instant, François Morel parlait de cette frontière entre l'humour et l'humanité. Je crois qu'on va voir au cours de votre exposé que vous avez aussi votre manière de rôder autour de cette frontière-là. Vos livres sont à la fois très, très intenses et souvent très drôles. Je voudrais rappeler quand même, puisqu'on est là au Forum de philosophie, que vous avez commencé par des études de philosophie. Vous avez été libraire également. Et d'ailleurs, l'un de vos textes sont, vos textes d'écrivain, puisque vous êtes écrivain, sont irrigués par une forme de pensée conceptuelle ou de rapport à la sensibilité des idées. Je pense notamment à ce texte qui s'appelle « La manadologie », où vous prenez au pied de la lettre cette formule de Gilles Deleuze qui disait que la monadologie de Leibniz était effectivement une sorte de roman de science-fiction. Pour vous présenter et pour justifier le fait que vous soyez présente à ce forum du Mans sur les frontières, je voudrais vous décrire comme une sorte de baroudeuse de la littérature, de femme extrêmement libre, qui a montré et qui montre toujours qu'elle est capable de s'autoriser plein de choses, qui crapahute sans cesse entre les genres, entre les styles, les proses, les écritures, et qui publie des romans ou des histoires pleines de territoires bizarres, de bouts de forêt, de rivières, qui se traversent parfois les unes les autres ou les uns les autres, avec des porosités comme ça inattendues, que vous aimez aussi parfois un peu désorienter et bousculer votre lecteur dans ces bouts de forêt et au long de ces rivières. Donc une littérature qui s'autorise beaucoup d'embarder aux frontières de la poésie, et j'y reviens, de la philosophie, de l'art et de la littérature. À propos du Mans, tout à l'heure, François Morel parlait du Grand Ouest. Ben, vous aussi, vous écrivez sur le Grand Ouest, mais le Grand Ouest des westerns, auquel vous avez consacré votre dernier roman. Ce western s'appelle « Faillir être flingué ». C'est un western à nouveau assez philosophique, où les cow-boys rejouent dans leur baignoire les discussions du banquet de Platon, et où, en permanence, vous ouvrez sans cesse de nouveaux territoires à explorer, avec un peu le Colt toujours à portée de main. Et on retrouve toujours donc votre façon si forte et si intense de repousser les frontières, celle du possible et celle de la littérature d'abord. Merci Céline Minard d'être là. Merci.
Dans quel sens ou dans quelle direction peut-on repousser les frontières ? Pour tenter de répondre à cette question, j'ai eu envie de commencer par un bon détour en compagnie de deux écrivains pinailleurs, extraordinairement, voire pathologiquement attachés à la cartographie, Laurent Stern et Arnaud Schmitt. Mon hypothèse est qu'en examinant de près leur obsession cartographique, quelque chose se dira de la frontière, de ses usages et de ses possibles transformations ou déplacements. Je débuterai volontiers par Laurent Stern, si vous le permettez, et son maître-livre « La vie et les opinions » de Tristram Shandy. Cet écrivain, connu comme l'inventeur du roman moderne avec Rabelais et Cervantes, fut également un rédacteur de pamphlets et de sermons dans le cadre de son ministère ecclésiastique. Il fut ordonné prêtre en août 1738. C'est un Britannique, un Britannique du XVIIIe, et c'est un procrastinateur de première force. Son roman « La vie et les opinions de Tristram Shandy » se propose très simplement de raconter la vie de son narrateur, et ses opinions donc, de la façon la plus précise qui soit, et en commençant par le début. Or, ces deux exigences de précision et d'exhaustivité, pour banales qu'elles apparaissent, vont devenir à la fois les deux obstacles et les deux moteurs de son projet. Pour faire très bref, le livre s'ouvre, comme vous le savez, après quelques tergiversations propédeutiques, par le récit de la conception du narrateur. Au premier chapitre, le père et la mère de Tristram Shandy sont donc occupés à remplir leur devoir conjugal. Or, le père de Tristram est un gentilhomme extrêmement discipliné et il s'est fait une règle d'expédier le soir du premier dimanche de chaque mois certaines affaires domestiques pour en être débarrassé jusqu'au mois suivant. Parmi ses menus devoirs, il y a remonter les pendules et faire l'amour à sa femme. C'est tellement systématique et régulier que la future mère de Tristram ne peut pas entendre son mari remonter les pendules sans y associer aussitôt en esprit la seconde activité. Et le soir précisément de la conception de Tristram, elle a subitement un doute et demande à son mari en pleine action s'il a bien remonté les pendules. Il s'ensuit une débandade des esprits animaux qui, selon le père de Tristram, va contribuer largement au caractère oblique de son fils. C'est cette éjaculation retard, suspendue, à moitié effective, ambiguë, disons limite, qui va en quelque sorte former et informer tout le livre. Elle n'est pas sans rapport avec la conception de Sterne de la ligne droite, qui constitue selon lui la ligne anti-romanesque par excellence, comme il nous le prouve en une page à la fin du chapitre 14, en arguant qu'un Jean de lettres qui se met à raconter une histoire n'est pas comme le muletier qui peut faire avancer tout droit sa mule de Loreto à Rome sans jeter un regard de côté. Contrairement à ces deux-là, qui peuvent voyager en ligne directe, l'historiographe, comme il dit, ne saura rien de son chemin tant qu'il ne l'aura pas parcouru. Et sur cette ligne droite imaginaire, il trouvera 50 occasions de faire un détour et il aura toutes sortes de, je cite, « récits à raccommoder, d'anecdotes à recueillir, d'inscriptions à déchiffrer, d'histoires à faufiler dans la trame de son histoire, de traditions à passer au crible de la critique, de personnages à visiter, de panégyriques à placarder sur ce portail-ci, de pasquinades sur celui-là, autant de tâches dont le muletier et sa mule sont absolument exempts. Pour résumer, à chaque étape, il devra se plonger dans des archives, compulser rôles, minutes, registres et généalogies infinies. Bref, il n'en finira jamais. » Et toutes ces haltes imprévues, dont l'auteur se doute bien qu'elles ne vont pas aller en diminuant, mais tout au contraire en se multipliant, lui ont suggéré un petit truc pratique qu'il est bien décidé à appliquer tel quel, savoir ne point me presser, procéder par petites étapes, écrire et publier ainsi deux volumes de ma vie tous les ans. Stern agit sur le temps comme le lièvre parti trop tard dans sa course contre la tortue. Comme l'espace pour le lièvre, le temps pour Stern est infiniment divisible. Et ce n'est pas la preuve de l'impossibilité du mouvement, mais la tentative de repousser la seule frontière que nous savons impossible à repousser indéfiniment, la mort. Si la progression du livre est digressive, ou plutôt, si la digression fonctionne comme une progression interne, implosive, comme un nuage qui se développe de l'intérieur, en chou-fleur, c'est précisément dans le but de n'en jamais finir. Cette façon d'introduire de l'éternité dans la durée finie trouve son pendant spatial dans les récits que fait Toby, l'oncle du narrateur, de son aventure guerrière. Toby a été blessé à la bataille de Namur. Il a reçu un éclat de pierre dans l'aine. Il doit garder la chambre et son passe-temps favori, au chapitre 1 du volume 2, et de raconter cet événement à ses visiteurs. Mais Toby a ce trait de caractère partagé par tous les membres de la famille Shandy. Il veut en toute chose être exact. Or, il n'est pas facile de distinguer une escarpe d'une contre-escarpe, un glacis d'un chemin couvert, et qui plus est, le terrain de son récit est coupé et entrecoupé d'un tel entrelac de digues, de canaux, de ruisseaux et d'écluses que Toby s'embarbouille dans ce fouillis, s'y prend les pieds et s'y englue si bien qu'il est, la plupart du temps, contraint de renoncer à son attaque. Pour remédier à cet embarras, il se pourvoit d'une carte, très exactement, d'un plan à grande échelle de la ville et de la citadelle de Namur, comprenant également les descriptions de ses abords et notamment de la traverse où il avait reçu sa blessure, à 30 toises de l'endroit où la tranchée principale formait son retour d'angle face à l'angle saillant du demi-bastion de Saint-Roch, pour être à peu près sûr de pouvoir ficher une épingle à l'endroit exact où il se trouvait lorsque l'éclat de pierre l'avait frappé. Une épingle. Cependant, une fois que Toby aura obtenu sa carte, la situation ne sera pas simplifiée le moins du monde. Son exigence d'exhaustivité va redoubler. Il va passer 4 ans au lit à lire des études de balistique, des archives militaires et des traités d'architecture défensive. On a toujours affaire là à cette progression digressive qui est en somme rétroactive. Plus on avance, plus on a eu à avancer, plus on a franchi des espaces infinis qu'il faut rétro-parcourir en récit. Le temps chez Stern, miné par la technique dilatoire du récit, est essentiellement paradoxal. Il est fait d'une action passée, observée depuis ses conséquences, et dont le déroulement rétrospectif n'atteint jamais le présent de la narration. Et la carte, à force d'être précisée à l'aune de l'épingle, finit par basculer dans la dimension du territoire. Toby, grâce à elle et à ses lectures intensives sur tous les sujets concomitants à la bataille de Namur, est capable, au terme de 4 ans et 2 mois d'études acharnées, de traverser la Meuse et la Sambre, de lancer des manœuvres de diversion jusqu'à la ligne Vauban et l'abbaye de Salines, mais aussi et surtout de mener l'attaque de la contresse Carpe en ordre impeccable, ne s'arrêtant qu'à l'extrême bord de la pente où l'ouvrage plonge dans le fossé. Avec ce plongeon, on passe de l'espace cartographique militaire, bidimensionnel, à l'espace en 3 dimensions de la bataille elle-même, si précisément relatée et dilatée que le survol qui colle au terrain à l'échelle 1-1 devient proprement dangereux. Mais mieux encore, ce plongeon nous permet d'entrer directement dans la matière littéraire elle-même. En croisant la carte, les traités de balistique, la lecture des archives militaires et le souvenir subjectif de Toby, Stern nous fait entrer dans la dimension littéraire de la bataille de Namur, qui est au croisement de tout ça, un quadrillage de souvenirs, de savoirs, de passés, de prévisions, de fantasmes, bref, des différents registres du récit, un tissage qui crée l'espace du roman, un espace mouvant, effectif, dans lequel on plonge au détour d'une phrase, une brèche, dans l'espace-temps. Cette brèche vive qui est, à mon sens, la marque et peut-être la raison ultime de la littérature, est provoquée par les écrivains qui savent, comme le dit Nabokov, où gratter aux charnières du temps. À ce titre, et bien que sa méthode ou son petit truc pratique soit à l'opposé de celui de Stern, Arno Schmidt fut lui aussi un gratteur de premier ordre, un gratteur concentré. Je vous rappelle rapidement un des passages les plus connus des scènes de la vie d'un faune. Ma vie, pas un continuum. Pas seulement qu'elle se présente en fragments blancs et noirs fragmentés par l'alternance jour-nuit. Car même de jour chez moi, ce n'est pas le même qui va à la gare, qui fait ses heures, qui bouquine, arpente la lande, copule, bavarde, écrit, polypenseur, tiroir qui dégringole. Si le segment est présent comme chez Stern, qui divise infiniment les espaces intermédiaires, il a chez Schmitt une fonction d'accélération, de condensation qui est tout le contraire de la manière dilatoire des Chandis. La perception n'est pas développée par le milieu, elle est ramassée comme un point, concise, condensée à l'extrême et agencée en séquence rapide. Les ellipses sont énormes. On est immédiatement plongé dans la grande vitesse, dans la vitesse absolue peut-être, plus rapide que celle de la lumière. Schmitt travaillait avec des fichiers, segments. Il était myope. Il a œuvré des années à une table de logarithmes. Il était passionné de géodésie et de triangulation, on le voit dans tous ses livres. Le désir d'exhaustivité et d'exactitude est chez lui aussi poussé que chez Toby, c'est son dada, comme dirait Stern. Dans les scènes de la vie d'un faune, récit de 4 années de guerre, le narrateur Heinrich Düring est fonctionnaire et il est mandaté par le sous-préfet pour constituer les archives de la circonscription. Il se lance donc dans des recherches et tombe sur des documents variés, dont une très belle carte ancienne et plusieurs rapports de police qui font mention d'un déserteur de l'armée française qui vide des bouteilles de vin, commet des larcins et poursuit des jeunes filles dans les bois aux environs de 1810. L'action des scènes de la vie d'un faune, je vous le rappelle, se situe entre 1939 et 1944. Voici comment il regarde les cartes. Avec une bonne règle en cellulo, fine graduation gravée sur la face ventrale, on peut vraiment obtenir une estimation fiable au 1/10 de millimètre. Superbe. Et puis, la loupe. Et au-dessous, la carte au 1/100 millième. Les fines courbes en pointillés indiquaient l'altitude. Des petits collets étaient disséminés dans les forêts. Chaque minuscule triangle noir figurait une ferme où meuglaient des vaches. Les carreaux des fenêtres étincelaient. La barrière entourant la maison était peinte en vert et mes doigts se contractaient d'application. Je serrais mes mâchoires avec une énergie obstinée. Je dois visiter chacune de ces maisons. Chaque bardeau du toit est à décrire, s'il le faut. Le souci de précision est clairement démesuré. Là où il fallait plusieurs années d'études circonstanciées à Toby pour plonger avec l'ouvrage dans le fossé, il faut un seul coup d'œil à Schmitt pour rentrer dans la carte. Et de façon si précise que sous ses doigts crispés de concentration, c'est jusqu'à la couleur de la barrière qu'on peut voir. Sa carte est plus complète que le territoire lui-même. Voici ce qu'il lit sur la carte ancienne. « Mais les forêts. Les feuillus formaient des ronds de silence, la sapinière muette et pointue. » Des chasseurs se glissaient parmi les résineux, retiraient des mains rouges de cadavres sombres. Des cerfs gîtaient, pas gisaient, accroupis. Des vaches s'abandonnaient dans les prés. Le vent se sifflotait un petit air. L'herbe faisait pchit. Mon âme oiseau disparut dans les sous-bois des forêts de 1812. Le voyage spatio-temporel est complet. C'est la lecture littérale de la carte qui le permet. Schmitt rend aux symboles les ronds, les triangles, les courbes de niveau, leur pesant de terre, de bois et de sang. Par cette lecture particulière, active, créatrice, la représentation se transforme en présence. Le voyage qu'elle permet est essentiellement poétique, poétique. Il crée l'espace dans lequel il évolue. Et par le jeu des métaphores, notre âme oiseau, on plonge, comme chez Sterne, dans la forêt de 1812 qui vient de se dégager de son propre fantôme. En passant la ligne de cime de ces arbres disparus, Schmitt nous indique le point de fuite des scènes de la vie d'un faune. Le point de fuite au sens littéral, la seule brèche possible pour une évasion, non pas hors du monde, mais dans le monde, dans son épaisseur. Un point que Heinrich Düring finira par atteindre et traverser pour une brève éternité amoureuse. Il est mandaté, on s'en souvient, par le sous-préfet pour constituer les archives de la circonscription. Et en examinant des rapports de police, il finit par tomber sur la mention d'un déserteur de l'armée française qui sème le trouble dans les environs. Il agit dans un périmètre assez restreint. Des battues sont organisées, mais sans résultat. Le déserteur de 1812 reste introuvable. Düring, qui cherche lui-même à toute force un moyen de s'évader à la fois du nazisme ambiant, de la guerre et de son mariage, reporte les indications sur une carte contemporaine, situe par déduction la zone de disparition et s'en va faire une petite randonnée dans ses environs. Il ne voit rien de particulier jusqu'à ce que, entre les parcelles 123 et 124, à l'endroit où le déserteur échappait toujours à ses poursuivants, un essaim de tant d'orages l'attaque et le fasse grimper à un arbre. Et de là-haut alors, il découvre la cabane, une petite chose caduque, 2 mètres de long, 2 mètres de large, 2,5 tout au plus. Enchanté, il rentre aussitôt vérifier la carte ancienne et sur la carte topographique au 25 millième, la cabane n'y est pas indiquée. Conclusion, personne ne la connaît. Autrement dit, il vient de découvrir ce qui n'avait pas pu l'être par les autorités de 1812 et ce qui ne l'est pas encore par celle de 1939. La cabane de 1812, entre les parcelles 123 et 124, est elle-même installée dans un espace-temps évadé, dans une brèche du monde. Et c'est de ce croisement, de ce tissage entre représentation, la carte, récit, les rapports, réel, le territoire et contingence, les temps, que naît la possibilité de l'évasion et de la littérature en tant que possibilité d'évasion. Cette cabane va devenir son refuge secret, son palais précieux, où il va vivre une histoire amoureuse et adultère avec sa jeune voisine. Il y mettra le feu. Quand il sentira approcher la bataille qui détruira toute la ville, il y mettra le feu pour qu'elle ne tombe pas dans les mains objectives des cartographes militaires, pour qu'elle continue d'être un lieu évadé, non repéré. Mon hypothèse est que la littérature de Schmitt est une cartographie. La ligne d'incise, en italique à chaque début de paragraphe, est une borne géodésique. Et les deux points qui la suivent, une invitation à monter sur la borne et à regarder le paysage depuis ce perchoir. En lisant, on va de borne en borne. Le récit est l'ensemble des rapports entre ces bornes et la littérature, une triangulation. Or, cette nouvelle forme de cartographie, qui contient aussi la chair et le temps, n'est pas un complément à l'ancienne, mais une subversion radicale de celle-ci. L'espace n'y est pas planifié, mais gonflé, dilaté, bourré, pulsé, et le moindre trou de marmotte peut vous envoyer dans la quatrième dimension, ailleurs. Chez Stern, comme chez Schmitt, c'est en recoupant les différentes lignes de partage, les crêtes, les registres littéraires et les grands registres poussiéreux des notaires, les minutes, les souvenirs, les lignes sensitives, en les multipliant et en les croisant, que l'espace magique, surnuméraire, s'ouvre devant nous. La question n'est donc peut-être pas de repousser les frontières, mais de les avaler, de les intégrer, de les battre comme un paquet de cartes et de les rejouer. Oui.
Merci beaucoup, Céline Minard. C'est une très belle intervention. Je me tourne maintenant vers Fatma Chérif. Merci beaucoup d'être là également. Vous vous souvenez que Michel Agier, l'anthropologue, je le cite beaucoup, mais j'ai été très marqué par son intervention. Cet anthropologue qui travaille donc sur les camps de réfugiés, les zones de transit, a fait tout un développement pour expliquer comment on avait tendance à projeter les frontières qu'on imagine sur les autres, à les enfermer dans des identités. Et il a dit, au moment même où on assigne autrui et l'autre à une identité, qu'elle soit culturelle, religieuse ou sociale, et bien en fait, cet autre a déjà bougé. Il a déjà commencé à s'émanciper de cette identité ou de ce carcan identitaire. Bien, j'ai envie de dire que c'est un peu la façon qu'a de travailler Fatma Chérif en tant que cinéaste, parce que vous n'êtes pas anthropologue, vous êtes cinéaste, donc vous avez une autre manière d'enquêter sur le terrain. Vous êtes né en Tunisie. Vous avez fait des études de cinéma, vous avez été assistante puis directrice de la photo sur de nombreux films et documentaires, et notamment vous avez réalisé un premier documentaire qui s'appelle Sweet Home, qui est consacré à la femme de ménage de vos parents en Tunisie. Vous avez également réalisé un reportage pour le site de nos confrères Mediapart, et vous intéressez, ce qui vous passionne, enfin le cœur de votre travail de cinéaste, c'est la question politique, la question des femmes aussi, la question du féminisme, et ce qui est révélé en partie par votre travail et votre investigation, c'est les frontières, non seulement les frontières sociales à l'intérieur d'une même communauté ou d'un même pays, mais aussi parfois les chassés-croisés, les malentendus, les chiasmes de part et d'autre de la Méditerranée. Fatma Chérif, merci beaucoup d'être là. Merci.
Merci. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter mon expérience en tant que réalisatrice, justement, comme vous le disiez. C'est plus un témoignage, en fait, de mon expérience de comment filmer le politique. Et pour ce fait, j'ai besoin d'abord de vous présenter un peu les circonstances dans lesquelles était la Tunisie à ce moment-là. Le 14 janvier 2011, je vis le départ de Ben Ali à partir de Paris. J'ai toujours espéré à ce moment-là, mais je ne voyais pas du tout sa concrétisation. On parlait beaucoup de fin de règne, mais on a été quand même très surpris de ce qui nous arrivait. Les événements du mois de décembre 2010 allaient changer le cours de nos vies, le cours de l'histoire. Les frontières ont été brisées, la dictature a été abattue, mais qu'est-ce que ça va donner ? Je pars à Tunis en février 2011 pour prendre part à ce mouvement inespéré, pour recueillir des images. À Tunis, c'est l'euphorie, la parole se libère, je courais d'une manifestation à une autre, j'assistais à l'incroyable insurrection de la jeunesse devant le palais du gouvernement. Le premier sit-in de la Casbah, qui revendiquait justice, liberté, dignité, taguant sur les murs de la capitale ses slogans de mai 68, « Soyons réalistes, exigeant l'impossible ». Il n'y a plus peur de l'influence extérieure, plus de barrières entre nous, quelles que soient nos idées. Sur cette place, la revendication commune, c'était la chute du gouvernement en place. Des débats enflammés dans la rue se mettaient en place spontanément. On ne se connaissait pas, c'était juste extraordinaire. On se découvrait les uns les autres. On faisait connaissance avec le pays. Les Tunisiens ne se parlaient pas. On se méfiait les uns des autres du temps de Ben Ali. Dans le café, on chuchotait dès qu'on parlait politique. Après le 14 janvier, c'était le pays de tous les possibles. Filmer était essentiel pour moi. Il fallait mettre en boîte notre histoire, immortaliser l'instant, garder des traces de ces moments magiques. Une boulimie d'images, comme si inconsciemment, je savais, et on le savait, je pense tous, que ça n'allait pas durer. Très souvent, je compare ça au début passionnel d'une histoire d'amour. Peu importe l'avenir, on vibre l'instant présent et c'est tout. Cette idylle ne dure pas longtemps. Les discussions commencent à virer aux disputes et la question du statut des femmes commence à apparaître au centre des débats. Qu'on parle de justice sociale, de réforme de la police, la discussion finit toujours par aller vers les femmes. Une amie criera « Ce n'est pas entre nos jambes que vous allez trouver la solution pour le pays ». Tellement l'instrumentalisation des politiques de la question des droits des femmes devenait insupportable. Les démocrates se présentaient comme les garants de nos droits, tout en diabolisant les islamistes. Et ces derniers nous rassuraient que l'exception tunisienne sera maintenue. Chacun voulait définir ses propres frontières et les imposer à l'autre. La différence est que les premiers nous demandaient de nous tenir à l'écart, donc les démocrates, c'est une bataille d'hommes, et qu'en échange, ils protégeaient nos acquis. Les islamistes jouaient la carte de rassurer, mais en parallèle, une campagne de dénigrement et de stigmatisation des féministes était mise en place par eux. Ils les traitaient de mécréantes, de sionistes, de vendues à l'Occident, tous les termes populistes. Peu à peu, je vois s'éloigner ces images d'hommes et de femmes entremêlées pour affronter le pouvoir en place. Et ces scènes insolites qui ont fait le tour du monde de filles portées sur les épaules des garçons lors des manifestations et se met en place des actions d'exclusion qui visent à assujettir les femmes, les écarter de la scène publique et à les rendre ou à les maintenir invisibles. Les acquis sont remis en question et le statut des femmes devient une ligne de démarcation. À chaque séquence, à chaque image, à chaque rencontre, la même question se posait à moi. Y aura-t-il un printemps pour les femmes ? Je choisis de suivre trois femmes qui se présentaient aux élections de l'Assemblée constituante. Comment filmer le politique sans le servir, sans être complice ? Bochra, Souad et Salma vont être les guides de mon film dans cette campagne électorale. Bochra Belhaj Ahmed est une avocate féministe et ancienne présidente de l'Association des femmes démocrates, candidate du Parti social-démocrate. Salma Bakar est cinéaste, elle est candidate du Pôle démocratique, une coalition de plusieurs partis de gauche. Enfin, Souad Abdelrahim est la seule candidate femme du parti Ennahda. Connaissant personnellement Salma et Bochra, étant assez proches de leur vision de l'avenir de la Tunisie, les filmer était chose simple. Par contre, filmer Souad m'a posé beaucoup de questions. Si j'ai fait le choix d'aller vers elle, c'est pour connaître le camp adverse. J'ai essayé de porter un regard honnête, d'éviter la diabolisation ou le fantasme. Mais comment filmer l'adversaire ? Les premiers jours, j'ai beaucoup pensé à Avi Moghrabi dans le film « Comment j'ai appris à dépasser ma peur et à aimer Ariel Sharon ». Moghrabi, gauche israélienne, décide de faire un film sur Ariel Sharon, le monstre de Sabra et Shatila, comme il dit. Sauf qu'au fil du tournage, il trouve l'homme très sympathique et il se retrouve piégé par lui-même. Pour sortir de ce piège, il mixe le documentaire avec une fiction où sa femme le quitte, son producteur le lâche, parce qu'il trahit la cause. Le film finit par des images réelles de Sabra et Shatila qui deviennent les images qui hantent les rêves de Moghrabi. Et comme Moghrabi, une espèce de fascination m'habitait. Leur organisation, leur discipline, leur dévouement, à Ennahda, on ne se dispute pas. On exécute les ordres et tout roule. Je me surprenais parfois à fredonner leur chant. De plus, Souad a été très avenante. Dès le premier jour, elle m'invite à déjeuner chez elle, me présente ses enfants, l'un qui veut devenir comédien, l'autre qui veut être photographe. Je me dis, en fait, ils ne sont pas si différents que ça. Son mari, un homme charmant aussi, me font le tour de la maison, me montrent les photos de leur mariage. Et les discussions hors caméra continuaient, et chacun de nous défendait son point de vue. Mais un sentiment de malaise et de trahison m'envahissait. Tous les soirs, ma mère, très ironique, me disait « Alors comment va ta copine ?» Dans cette phrase, je sentais le reproche. « Et pourquoi tu vas la filmer, elle, notre ennemie ?» Dans son regard, il y avait tout l'historique du parti Ennahda, et parfois, elle finissait par me dire « Tu verras ce qu'ils feront de nous, les femmes. » Une volonté de mettre des frontières entre eux et nous. Consciente du danger qu'ils pouvaient présenter, consciente aussi de l'instrumentalisation de ma caméra, consciente du double discours omniprésent, filmer Souad reste pour moi très important. Contrairement à ma famille politique, je ne considère pas les islamistes comme des ennemis, mais comme des adversaires politiques. Mais à quelle distance je devais être pour filmer Souad ? Est-ce important qu'il y ait des frontières entre nous, entre le sujet filmé et le filmeur ? Bochra et Salma étaient dans la spontanéité. Elles se plaçaient assez loin de toute maîtrise de leurs images ou autre forme de professionnalisme politique. Souad avait quant à elle une grosse machine qui la soutenait. Sa campagne était préparée au millimètre près. Elle était le produit marketing du parti, la femme non voilée du parti, image de la femme active. Comment filmer sans être complice ? Comment aller au-delà de l'image construite et contrôlée ? Autant de questions qui se bousculaient. Au fil de mon tournage, le contact avec les électeurs l'a révélé, et révélé surtout son professionnalisme politique, qui consistait à dire ce que l'autre voulait entendre. L'exemple du jeune homme qui voulait un terrain de foot, et tout de suite on lui disait « mais bien sûr, va voir le bureau à côté de Nada, ils vont tenir compte de votre demande ». Un jour, elle faisait une campagne dans un café et une jeune fille lui dit qu'elle n'avait pas confiance en elle et en eux. Elle lui répond qu'il n'y a pas de quoi, que la Tunisie ne deviendra jamais l'Iran. Et là, une autre jeune fille réagit tout de suite en lui disant « mais ça veut dire quoi, on ne va pas être l'Iran ? Mais l'Iran, c'est magnifique, c'est une république islamique, ça devrait être un exemple pour nous tous ». Et là, tout de suite, elle change de discours et ça devient « mais c'est merveilleux ce que j'entends ». Enfin, une jeune fille tunisienne qui assume ce qu'elle dit, qui n'a pas peur d'être traitée de rétrograde. Suite à cette séquence, j'ai décidé de passer le maximum de temps avec elle, de ne pas intervenir et que c'est le temps et l'observation qui la révéleraient et révéleraient ses contradictions. Que les frontières dans nos rapports n'ont pas lieu d'exister dans le rapport humain par le seul fait qu'on soit adversaire. La vraie frontière dans mon cas avec Souad a été le temps. Le temps de filmer durant tout le mois de la campagne, mais aussi il y a eu le temps du montage où j'ai mis en parallèle le discours de Souad, discours rassurant, revendiquant le code du statut personnel avec ce qui se disait sur les pages Facebook de Nada où la polygamie est revendiquée comme liberté individuelle, où les appels aux agressions des féministes et des laïcs est chose fréquente. Ainsi, ce que subit Bouchra directement sur le terrain, les gens dans la rue venaient de l'agresser parce qu'elle défendait le mariage homosexuel. C'est la distance que je prends par rapport aussi à l'événement. Je ne le traite pas en tant qu'actualité, mais 2 ans après. Si j'ai parlé au début de la mise en place du film, de la révolution, c'est que tout au long de cette expérience, la question de frontières était présente. Le départ de Ben Ali a été une libération. On a cassé les frontières, mais on n'avait pas de socle commun, de règles communes qui puissent nous garder. Et du coup, chacun voulait y mettre son propre modèle, ses propres limites, ses propres frontières. Le fait de se libérer des limites qui existaient sous la dictature n'a pas fait qu'on essaye de trouver des règles de fonctionnement communes, garder cette liberté, mais plutôt chacun a voulu y mettre ses propres limites, ses propres frontières. Même ceux qui se réclament de l'universel. Je vais finir par les frontières que les autres nous imposent en projetant mon premier film en France. J'ai eu un échange avec des femmes françaises d'origine maghrébine. Sweet Home raconte en fait un échange en huis clos chez mes parents avec la femme de ménage sur la sexualité. Des femmes françaises d'origine maghrébine étaient surprises de voir cette femme libre de parler de sexualité, de poser des questions sur l'avortement. Certaines m'ont presque reproché de montrer cet échange, que si elle a parlé de la sorte devant la caméra, c'est que je l'ai manipulée. De même, aujourd'hui, l'image que les médias français nous renvoient de nous-mêmes, de notre Tunisie, est pour moi un enfermement, des limites qui ne me représentent pas. S'il est vrai qu'il y a des salafistes, des islamistes, des discours revendiquant la polygamie, il y a aussi des démocrates, des laïcs. Ne faisons pas des frontières réductrices. La révolution est en cours et les règles du vivre ensemble se dessinent petit à petit.
C'était le forum Le Monde Le Mans, avec aujourd'hui François Morel, acteur, chanteur et chroniqueur, Céline Ménard, écrivain, et Fatma Chérif, cinéaste. Débat animé par Jean-Birnbaum, prise de son Georges Thau, réalisation Isabelle Huel. Nous nous retrouverons mardi prochain, rien lundi en raison du 14 juillet, avec Frédéric Haït-Touati, spécialiste de littérature française, qui elle aussi abordera la question des frontières de l'art, intervention suivie d'un débat durant lequel les spectateurs sont intervenus pour poser des questions.